et très souvent, il ne se donnait pas la peine d'écouter le maître, car passionné à la pensée de la chasse au merle, à coups de lance-pierre, qu'il allait faire dès la classe finie. Ou encore, très très loin des règles de Troie, du baptême de Clovis ou de 1515, car trop absorbé, main cachée sous un livre ouvert, par la confection de quelques collets à alouettes. Alors, dans ces conditions, autant Marthe avait brillé lors du certificat d'études, elle était arrivée quatrième du canton, autant les notes de l'élève Jean Laval, de la ferme des Combettes, avaient pâti de son manque d'attention. Piètre consolation, ses résultats n'étaient pas les plus mauvais de la classe, mais quand même insuffisants pour décrocher le diplôme. À son étonnement, et alors qu'il s'attendait à d'acerbes remontrances de sa mère, celle-ci avait eu un geste de la main, comme pour chasser le problème, et conclut « Comme tu ne seras jamais fonctionnaire, mais que tu sais lire, écrire et compter, ça te suffit bien pour être paysan. Et c'est ce que tu es maintenant, puisque tu n'es plus obligé d'aller à l'école. » Cette réflexion ne lui avait pas déplu, mais elle n'avait pas suffi à lui faire oublier la phrase que Marthe lui avait lancée un peu plus tôt.
« Quand même, tu aurais bien pu l'avoir, ce certificat. » Rien que pour me faire plaisir.
Il en était resté quoi? Avant de balbutier,
pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt, hein?
Elle avait haussé les épaules, un peu fataliste, puis sourit, de ce sourire qui le désarmait et accélérait les battements de son cœur, avant de lui lancer,
tu aurais dû le deviner.
Puis, elle avait rejoint son amie Francette, elle aussi diplômée et heureuse. Leur rire l'avait beaucoup plus vexé que son échec, car autant celui-ci était attendu, autant les propos de Marthe l'avaient touché.
« Pour me faire plaisir, »
avait-elle dit. Il ne demandait que ça, et elle le savait très bien. Malheureusement, autant il lui avait été simple pendant les périodes scolaires d'être prévenant avec elle, autant ça allait devenir difficile. En classe, il avait pu chaque jour veiller à ce que nul ne se moque de sa tenue, de ses tabliers, corsages et jupons élimés. Marthe n'était pas la plus pauvre de l'école, mais ses vêtements, maintes fois ravaudés, trahissaient quand même la basse situation de ses parents. Veillez aussi, et surtout, à ce que nul ne s'avisât de la pincer, de lui tirer les cheveux ou de lui lancer dans les jambes quelques sournois coups de sabot. Mais toute cette attention qu'il lui portait, et les rares inconscients qui en avaient ricané l'avaient aussitôt regretté, étaient possibles à l'école. Celle-ci finie, Marthe et lui allaient maintenant être séparés par les 3 kilomètres de bois et de champs qui s'étendaient entre leurs fermes. Alors avait commencé une longue et morose période de séparation, que ponctuaient seulement parfois quelques fortuites rencontres au village, ou encore lors des foires ou des marchés à Brive. C'était, pour l'un et l'autre, des moments de bonheur, qui, malgré leur brièveté et leur manque d'intimité, leur permettaient d'affiner leurs sentiments, de se refaire la promesse d'être un jour l'un à l'autre. Puis étaient venus les temps où, plus âgés, ils avaient pu se retrouver au bal, partout où, dans la proche région et les samedis soirs, soufflaient en cadence un ou deux accordéons. Enfin, était arrivé le jour où, à 18 ans, sur un coup d'audace, il avait annoncé à sa mère que Marthe serait un jour sa femme. Dans sa lancée, il avait couru jusqu'à la métairie où elle vivait pour en prévenir son père. Celui-ci, loin de tomber des nues, sa fille unique l'avait elle aussi averti de leur décision, avait fait preuve de bon sens, heureux de savoir que Marthe serait un jour l'épouse d'un propriétaire. Lui-même n'avait aucune chance de l'être jamais. Il avait néanmoins rappelé quelques évidences. D'abord, que Jean était mineur pour encore 3 ans, et que dès ses 20 ans arrivés, il aurait aussi 3 années d'armée à accomplir. Alors, non seulement ça devait leur donner le temps de réfléchir, mais surtout les inciter au calme, à la modération et à la prudence dans leurs relations. Bref, à ne pas fêter Pâques avant carême. Ce dernier propos était inutile. Mais le brave homme ne pouvait savoir que Marthe avait déjà réglé l'affaire, sans détour ni circonlocution, franchement, comme elle gérait sa vie. La mise au point datait de peu, pas plus d'un mois. Depuis ce soir de mai qui embaumait les prairies en fleurs et résonnait du chant des rossignols se donnant la réplique. Il faisait bon, et la pleine lune jetait sur toute la campagne une douce lumière d'un bleu laiteux, qui, tout en accentuant le noir profond des ombres que projetaient les arbres, éclairait les champs et les prairies presque comme en plein jour. Et les yeux de Marthe scintillaient comme jamais, et ses lèvres étaient offertes. Un peu sottement, car il connaissait très bien les principes de la jeune fille, Jean, émoustillé par toutes les danses qu'il venait de partager au bal de Noailles, s'était laissé aller à oser quelques caresses trop précises et sans équivoque. Il n'avait pas pu pousser plus loin, car, sans violence, mais avec toute la fermeté dont elle était capable, Marthe l'avait repoussé. Et il avait pu lire dans son regard non pas de la colère, mais une détermination sans appel, à tel point que sa phrase était superflue. « Si tu oses me toucher plus bas que la ceinture, tu auras des claques et tu ne me verras plus !» Dépité, il avait cru s'en sortir en lançant « C'est le curé qui t'a mis ça en tête ?» Il savait que Marthe était une honnête paroissienne, mais sans plus, une fidèle autant par habitude que par ferme conviction. Car si à l'époque où ils avaient fréquenté ensemble le catéchisme de l'abbé Cardoux, elle était là encore parmi les meilleures et les plus attentives, communion solennelle faite, elle n'était pas pour autant devenue un pilier de la paroisse. Aussi était-il conscient que sa question était stupide, mais fusait déjà la réponse. « Le curé n'a pas plus que toi à s'occuper de ce qui se trouve sous mes jupons. De plus, je ne suis pas la mère Angéline, moi. »«
J'ai jamais pensé à ça !» avait-il protesté, gêné qu'elle ait pu un instant croire qu'il la comparait à la créature en question.
C'était une femme entre deux âges, qui, nul ne l'ignorait, avait connu ses heures de gloire et de position horizontale au chat qui chante, un bobinard de Brive dont la lanterne rouge peinait à éclairer la sinistre ruelle où il s'abritait, tout volet fermé. Angéline, malade de la poitrine, elle toussait à en perdre le souffle et ses clients n'appréciaient pas cette spécialité, avait dû abandonner sa profession. Elle s'était installée dans une maison d'une pièce, héritée de sa mère, sise à un demi-kilomètre de Costeblanc. Et elle vivait là, grâce à un petit jardin, à quelques poules et lapins, mais aussi aux piécettes que laissaient sur sa table ceux qu'attiraient encore ses charmes pourtant bien fanés et que ne rebutaient pas ses quintes aussi violentes que subites. Jean, malgré ses 18 ans et les montées de sève qui le mettaient souvent dans tous ses états, n'avait jamais poussé la porte de la mère Angéline. Aussi, d'entendre Marthe se défendre en invoquant l'ancienne pensionnaire du chat qui chante, l'avait décontenancé. Mais cela lui avait aussi prouvé à quel point celle qu'il considérait depuis longtemps comme sa future femme était solide, forte, d'une volonté peu commune. Car, il n'en doutait pas, moins de 5 minutes plus tôt, peut-être à cause de cette si belle nuit et de sa tiédeur, Marthe, pendant qu'il l'embrassait et la caressait, avait presque failli se laisser coucher dans l'herbe, et il devinait qu'elle eût apprécié la suite. Mais elle avait réagi avec sa méthode, fermement et sans tergiverser. Et lui, sa pulsion retombée, en avait été admiratif. « Tu as raison », avait-il dit en lui caressant la joue du revers de la main. « Mais tu es tellement belle qu'il faut me comprendre. » Tu m'en veux ? Non, mais n'oublie jamais ce que je t'ai dit. Pas en dessous de la ceinture. Quand tu m'auras conduite devant le maire et le curé, tu te rattraperas. Et moi aussi, j'y veillerai. Crois-moi. Il s'était rattrapé ô combien. Et avec quel brio. Quel bonheur. Mais, arrivé à ce stade des souvenirs, Jean, transi de froid au fond de sa tranchée, et pour abruti de sommeil et de fatigue qu'il fût, savait qu'il devait y mettre un terme. Ils étaient trop brûlants, trop précis et intimes, trop démoralisants surtout. Car au lieu d'être en ce moment chez lui et au lit avec Marthe, blottie tout contre sa poitrine et tout endormie comme elle l'était sûrement à cette heure, il était là, pieds dans la boue, sa capote et ses pantalons tout ruisselant d'eau. Il était là, peur au ventre, avec pour seule occupation, outre la surveillance des alentours, la morbide comptabilisation des énormes rats qui souvent, pour éviter la boue, lui frôlaient les épaules et la nuque en se faufilant sur la banquette de tir de la tranchée. Ces rongeurs, moins fous que les hommes, savaient bien qu'à cet endroit élevé, la boue était moins présente qu'en bas, moins épaisse et dangereuse pour eux qui risquaient de s'y noyer.
Et voilà le 9e, compta-t-il en s'ébrouant.